9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour, bonjour Julie Zenati.
Bonjour.
On se parlait juste avant, pendant que le générique tournait, vous êtes chanteuse, également autrice, compositrice, révélée à 16 ans dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, avec sacré casting à l'époque, Hélène Ségara, Patrick Fiori, Garou. Quel chemin pour vous tous et toutes. Vous avez démarré une carrière solo, double disque d'or avec l'album Fragile, c'était en 2000. Et là, vous sortez votre 8e album, Refaire danser les fleurs, dont on vient d'entendre le titre Paisiblement fou. C'était quoi l'idée directrice de cet album, s'il y en avait une? Les fleurs ne dansaient plus pour vous, ou alors pas comme vous vouliez?
J'avais envie de faire un album un peu rassurant, un album qui fait du bien. Et effectivement, oui, j'avais envie de remettre un peu de couleurs et de nouvelles odeurs dans mon métier, dans mon travail, dans ma vie. Et d'où la symbolique de ces fleurs, les fleurs qui repoussent toujours, même après, même sur des douleurs, même après des catastrophes. Voilà, la nature reprend toujours ses droits. J'ai repris mes droits.
Comment vous avez travaillé, avant qu'on parle exactement des droits même d'auteur, comment vous avez travaillé pour les musiques, pour les textes, pour tout? Comment ça s'est passé? Qui a écrit l'album?
Essentiellement moi, avec une petite équipe d'auteurs-compositeurs comme Barbara Pravi, Vincent Brion.
Barbara Pravi, c'est elle qui va représenter la France à l'Eurovision.
Mais oui, voilà. Moi j'ai du flair.
Voilà.
Oui, elle, c'est une super autrice ou auteure. J'ai travaillé aussi avec Oden, qui est un super compositeur. Et j'ai fait quelques duos, entre autres avec Rose, avec qui on a écrit aussi deux chansons. Martin Rapneau. Voilà, on a travaillé de façon très artisanale, un piano, de l'envie. Et puis voilà.
Alors si j'ai bien compris, vous avez enregistré les voix dans votre cave et tout a été mixé en Israël. Je fais un raccourci, mais c'est un peu ça.
C'est ça, bah on était confinés.
Ouais.
Voilà. Donc chacun, on a fait une première partie de l'album tous ensemble. Et puis ensuite, quand on est rentré en confinement, on a chacun terminé de notre côté. Donc Mathieu Rabaté, qui fait les batteries, a fait ça dans son sud. Laurent Verneret, dans sa banlieue à Paris. Et Jérémy Thuil, qui a mixé l'album, lui est en Israël. Donc du coup, il a mixé l'album là-bas.
J'ai découvert ça, Mathieu Rabaté, c'était le batteur des Négresses Vertes.
Oui, tout à fait. Hein,
ouais, voilà, je me souviens bien des Négresses Vertes.
Ouais, ouais,
vos sources d'inspiration, c'était quoi? C'était qui?
Ah, c'est Berger, Gall, Sanson, c'est la musique de mes parents en fait.
Ouais. Il y a du France Gall.
Il y a du France Gall, évidemment.
Il y en a, on dirait qu'on est dans les tontons flingueurs, parce que dès la première chanson, Pour nos petits cœurs qui flanchent, il y a un hommage à France Gall, même un hommage très appuyé. Oui. On vous a fait un petit montage.
Qui nous dira?
Pas du plagiat, c'est une référence.
Ah oui, non, mais et puis c'est complètement assumé d'ailleurs.
Ça peut pas se faire en douce. C'est tellement voyant que c'était une citation, comme on dit.
Mais d'ailleurs, le refrain de cette chanson, c'est comment elle fera la France sans France et Jojo.
Ouais.
France étant France Gall. Enfin, je ne rougis absolument pas devant cet hommage.
On l'a bien compris. Là, oui, on pouvait pas dire que ce soit en douce. Là, vraiment.
Ah bah non, j'ai essayé de voler personne.
Il y a une histoire dans l'histoire. Vous parliez de droit tout à l'heure, puisque vous êtes devenue votre propre productrice. D'abord, ça veut dire quoi concrètement et ça change quoi?
En gros, c'est moi qui fais, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye en fait, c'est la différence.
C'est vous qui avez financé, qui avez payé les musiciens, le studio, l'enregistrement.
Le studio, l'enregistrement, la promotion, les affiches, le disque en lui-même à fabriquer. Et aujourd'hui, je travaille avec toute une petite équipe que j'ai montée au fur et à mesure de mes rencontres, et très souvent d'ailleurs issue de maisons de disques, puisque c'est beaucoup de gens qui sont devenus ensuite indépendants.
Mmh.
Et pourquoi? Parce que je vivais dans un système aujourd'hui qui ne correspondait plus à ce que je suis artistiquement. J'avais envie de casser un peu les codes, de faire de la musique avant de communiquer en fait. Voilà, comme dirait Deleuze, c'est créer n'est pas communiquer. Et moi, j'avais envie de commencer d'abord par créer et ensuite voir comment je pourrais proposer mon travail aux gens.
Bon, dis donc, voilà. Si je m'attendais à ce que vous, Julie Zenati, vous citiez Deleuze, ça fait grand plaisir.
Excusez-moi, oui.
Non, au contraire,
parce
ça
que
fait...
j'ai aussi un cerveau.
Non, ça fait plaisir, ça n'empêche pas, justement. Mais c'est justement, ça
oui,
rappelle justement. En fait, ça répond très, très bien à cette question, puisque vous étiez dans des maisons de disques. C'est pas faire injure aux maisons de disques, dire que les artistes sont formatés. Et donc, vous n'étiez pas la personne qui allait citer ni Deleuze ni Guattari.
Non, ça c'est certain. Oui, c'est sûr. Après, au-delà de ça, moi, je suis pas là. Enfin, je ne cracherai pas sur les maisons de disques. Parce
non, non. Ma question était pourquoi vous les avez quittées. Auriez pu, quand bien même on n'est pas heureux de sa maison de disques, on peut en prendre une autre. Pourquoi avez-vous décidé d'être seule?
Je décide d'être seule parce que je ne crois plus à ce système-là. Je pense tout simplement que les artistes doivent redevenir des artisans et l'artisanat passe d'abord par une identité artistique qui correspond à une envie de dire quelque chose, à un besoin d'exprimer quelque chose avant d'essayer de rentrer dans des codes qui peuvent satisfaire un son radio ou un truc à la mode. Ou, voilà. Et moi, je me sentais plus tout à fait en corrélation et avec ce système-là. Je pense aussi parce que j'ai vieilli, tout simplement.
Je vais vous présenter une personne qui n'est pas formatée, qui est unique, ça va vous faire plaisir. C'est Hélène Manarino, le portrait inattendu, en compagnie de Julie Zenati. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Je vous l'avais dit, Julie Zenati, je vous présente Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour.
Bienvenue encore ce matin.
Bonjour Julie Zenati.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors non, pas de surnom, vous n'aimez pas ça, oublions les En revanche, Jules, ça passe. Vous avez déclaré « Chaque album est une carte postale de ma vie au moment où je suis en train de l'écrire ». Alors je vous propose de ne pas nous contenter d'une carte postale puisque nous allons faire un peu le best-of de votre vie. On va se plonger dans vos souvenirs d'enfance après. Écrivons la carte postale d'aujourd'hui. Finalement, vous n'avez jamais vraiment changé. Vous êtes restée la bonne copine que l'on a envie d'avoir. Vous avez votre groupe d'amis depuis l'âge de 15 ans. Et vous faites comme à l'époque, des soirées pyjama. Vous mangez des bonbons. Vous vous racontez vos vies dans le groupe WhatsApp, les cops de la vie aussi. Chacun raconte un peu ses différentes actualités. Alors Julie Zenati, la vôtre, vous êtes la pro du rangement, vous aimez dégivrer le frigo quand vous êtes stressé, vous aimez soulever le four pour retirer la poussière qu'il y a en dessous, vous aimez laver le filtre de la machine à laver, bref, vous êtes maniaque. Alors Julie Zenati, un quotidien rythmé aussi par des habitudes très précises. Vous ne pouvez dormir qu'à droite dans un lit et près de la porte.
C'est mon mari.
Et vous avez...
Non, mais, et si la porte est à gauche?
Je dormirai à droite ou je dormirai près de la porte.
D'accord.
Vous avez également
débat.
Votre place sur le canapé et vous n'aimez pas qu'on vous la prenne, même si vous n'êtes pas dessus.
Non.
Ah bah oui.
Normalement, c'est que les vieux grands-pères qui font ça.
Je sais, mais j'ai un côté, j'ai une âme de vieux grand-père.
Vous aimez manger depuis 40 ans le gâteau, l'opéra d'un célèbre pâtissier. Et vous êtes capable d'organiser un super nouvel an spécial rap avec tous vos amis. L'endroit qui vous fait du bien, la Corse. Et quand vous cherchez des vacances à plusieurs, la Corse est toujours choisie. Alors, maman poule, protectrice, bonne copine. Vous adorez aller faire une manicure en tête-à-tête avec votre fille. Vous aimez prendre du temps pour vous, surtout quand vous regardez Maison à vendre de Stéphane Plaza ou les 5 saisons d'affilée d'une série. Bon, best-of, il est temps maintenant d'écrire la carte postale de vos souvenirs, Julie Zenati, eh bien oui.
Et tu danses avec lui.
Incroyable.
La tête sur son épaule.
Et tu danses avec lui. Une enfance marquée par cette chanson, c'est la première chanson que vous avez chantée dans les bras de votre papa à l'âge de 3 ans.
C'est vrai.
Alors Julie Zenati.
C'est bizarre, hein? C'est très bizarre.
Une enfance décorée avec votre applique Betty Boop, votre lit superposé avec votre bureau intégré et votre petite cachette que vous aviez créée. Vos Barbies aussi. Et vous alliez souvent jouer aux Barbies chez la voisine, sauf que vous ne l'aimiez pas beaucoup. Donc vous lui aviez piqué une ou deux, trois tenues de Barbie. Et quand cette voisine venait chez vous et qu'elle voyait les tenues Barbie qu'elle avait perdues.
Le vol.
Vous deviez trouver un mensonge. Et bien oui.
Que je trouvais toujours. Désolée Alexandra, si un jour...
Gourmande, surtout des œufs au plat, de bonbons, vous ne pouviez vous passer de la soupe de votre nounou Zora. Et puis il y avait aussi dans votre vie des achats réguliers, et notamment ces albums. Whitney Houston, évidemment. Vous saviez que vous vouliez être chanteuse, vous vouliez aussi être contractuelle, car vous pensiez que l'argent des amendes, ça allait directement sur votre compte en banque perso.
C'est bizarre, hein?
C'est le meilleur métier du monde.
Mais c'est le meilleur métier du monde. Et puis ce petit uniforme bleu, là. Voilà, je vois, ouais.
Alors, Julie Zenati, créer un spectacle, être sur scène, une envie que vous a transmis votre professeur de musique au collège, Monsieur Bugnon. Et d'ailleurs, au spectacle de fin d'année, vous aviez chanté ça.
Allez, venez, Milord, vous vous asseoir à ma table.
Il fait Milord, Édith Piaf, vous étiez un peu la môme du collège, bosseuse. Vous aimiez, dès qu'il fallait rédiger une rédaction, prendre le dictionnaire, regarder les mots que vous trouviez beaux, et vous écriviez en fonction de ça. Donc vous aviez de super notes, évidemment. Fille amoureuse également, surtout de Jordan, mais malheureusement, amour à sens unique, c'était un amour de vacances.
Oh, vous voulez faire un de ses coups, elle ne s'attendait pas à entendre le prénom
alors,
Jordan.
Jordan, et tout d'un coup, j'ai eu un flash.
Quoi. Ouais.
Ouais, Jordan, ouais, un amour de vacances. Jordan.
Il y a aussi votre premier amour, Julien. Non. Vous avez trouvé le refuge.
Et vous avez
Beignet.
Tous les prénoms.
Ouais, c'est ça, c'est bizarre.
Ouais.
Dis donc, j'en collectionnais un des amours, moi.
Vous avez trouvé le refuge chez vos amis, l'essentiel, vos copines avec qui vous imitiez notamment les Spice Girls. Et puis il y a eu les souvenirs de colo et votre expérience camping pendant 4 jours. 10 heures de marche pour arriver en haut des montagnes. Vous aviez une envie pressante, mais vous ne vouliez pas faire pipi dans la nature. Donc avec votre meilleure copine, vous êtes partie trouver un resto chic, évidemment, pour vous laver aussi.
À votre rire, on sent que l'anecdote est une fois de plus exacte.
Ah, oui, c'est tout à fait exact, je me souviens. Oh là là, quelle alors, petite conne j'étais. C'est fou ça.
Je vais pas pipi dehors moi. Je vous comprends, je suis pareil. Alors Julie Zenati, la bonne copine qui reste finalement au fond d'elle, celle qu'elle était à l'âge de 15 ans. Tout est plus pop avec vous, oui, et ça finalement depuis toujours.
Merci beaucoup, Alain Manarino. Réaction, vous êtes reconnue. Hein.
Complètement. Bravo pour toutes ces anecdotes, parce que franchement, celles-ci, elles sortent des fonds de tiroir. Merci les copines, hein, voilà. Qui doivent être en train de bosser, mais voilà.
Je... Et vous saluez pas les ex?
Non, personne n'a parlé finalement. Personne n'a dit que j'étais exceptionnelle, extraordinaire.
Merci beaucoup, Alain Manarino. Ils arrivent, il y a Jordan qui arrive, il est avec Julien. Dans un instant, notre premier indispensable, c'est Nicolas Caro, qui va nous faire découvrir un roman dans lequel le bonheur doit absolument régner.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Julie Zenati, son nouvel album vient de sortir, Refaire danser les fleurs, album produit par elle-même, Cirque-Elle. C'est elle qui s'est occupée de tout, même du financement. Et l'album se termine par une chanson qui s'appelle Plein phare au singulier. C'est le titre, on dirait, qui parle le plus de vous. J'aimerais bien savoir ce que ça raconte. Je l'ai écouté et je me suis dit, j'ai même relu les paroles. Et je me suis dit, ça parle d'un événement très très douloureux. Et je me suis dit, c'est soit une mort, soit une agression.
C'est une chanson que j'ai écrite avec Rose, qui est une auteure que j'aime beaucoup et qui a une grande sensibilité. La musique a été faite par Martin Rapneau, qui est un ami. Cette chanson parle d'une agression.
Elle parle d'une agression ?
Oui, tout
à fait. On va entendre quelques notes.
Il y a bien cette petite fille, un dimanche à Bastille, et puis tout qui vacille, son foulard à poivlon, vestige du printemps. Le temps, il s'enfuira peut-être, mais jamais de sa tête, il en a fait des miettes. Ils ont couru et puis, ils ont couru et puis, j'ai essayé de croire en la scène et la gloire.
Cette petite fille, un dimanche à Bastille, et puis tout qui vacille, foulard à pois blanc, vestige du printemps qui a volé le temps. Il, on ne sait pas qui c'est, s'enfuira peut-être, mais jamais de sa tête. Il en a fait des miettes. Et ça m'a fait penser à l'aigle noir de Barbara.
Oui, il y a comme ça des histoires qui font partie de d'une vie et à un moment qui ressortent. On ne sait pas pourquoi et en même temps on a besoin à un moment que ça existe. Probablement parce que j'ai une petite fille, moi, qui a 10 ans aujourd'hui. Et voilà, et cette chanson-là, finalement, c'est le dernier bout de puzzle qui manquait à tous ces 8 albums que j'ai faits.
Et à la compréhension de vous-même.
Oui, je pense, oui. Et puis aussi ce besoin...
Pardon de poser la question comme ça, mais la petite fille, c'est vous.
Oui. Je ne m'attendais tellement pas à ça, je suis désolée que du coup je pas voilà.
Vous voulez que je vous dise ?
Oui.
Moi non plus je m'attendais pas à ça.
Voilà.
Et c'est pas facile d'enchaîner dans ces cas-là.
C'est ça. Et
je vais vous soulager, je vais me tourner vers Nicolas Caro.
Super.
Parce que je vois que vous êtes un peu au bord des larmes, Julie.
Ah bah merci.
Nicolas, et ça va être beaucoup plus joyeux puisque aujourd'hui, vous nous parlez d'un roman noir sur la tyrannie du bonheur.
C'est ça. Et le livre s'appelle Les Fragiles aux éditions du Masque, signé Maud Robaglia, Et Fragile, c'est le titre de votre premier album.
Oui, Fragile toute seule.
Il n'y a pas de hasard. C'est l'histoire de Jérémiade. Elle travaille au Parfait Nettoyeur. Elle vend des shampoingeuses à moquette, tout un tas de trucs qui servent à nettoyer, à briquer. Elle travaille bien. Et le Parfait Nettoyeur est une petite chaîne qui marche bien aussi, même si son patron est un beauf, qui dit des trucs comme « Les femmes salissent parce qu'elles font plusieurs choses à la fois, les hommes parce qu'ils sont pressés. » Toujours est-il que tout le monde salit tout, alors il faut nettoyer. Il y a du boulot et ils vont ouvrir le troisième magasin. Et le patron a décidé de confier la direction à Jérémiade. Donc ça va. N'empêche que quand on la rencontre, à la première page du livre, elle vient d'essayer de se suicider, Jérémiade, mais sans succès. Elle est dans la rue maintenant, elle a le visage tuméfié et donc tout le monde la fuit.
Pourquoi on l'aide pas ?
Eh ben non. Vu son état, ça doit être encore une fragile. Maud Robaglia nous explique ce qu'on appelle une fragile dans ce roman.
Alors un fragile, dans cette société que je décris, c'est une personne qui a, comme Jérémiade par exemple, une araignée au plafond, comme dit sa fille, ou alors, plus globalement, qui est malheureuse, dépressive, voire suicidaire, et voilà, qui n'arrive pas à être bien dans sa peau et heureuse. Et du coup, en fait, dans cette société-là, on n'emploie plus le terme de malade, on emploie le terme de fragile. Au départ, on essaye quand même de les soigner et puis en fait, on se rend compte que c'est plus difficile que ce qu'on imagine. Donc on finit par les enfermer, mais pour leur bien toujours, c'est toujours important.
Mais s'il y a des fragiles, comme elle dit, on les protège, non ?
Ben on devrait, mais non. Il y a des émissions sur les fragiles. On se demande souvent si un tel ou un tel serait pas un fragile par hasard. On en a peur, on les évite et surtout, on ne leur pardonne pas de l'être. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Des livres de développement personnel, des psys, tout. Alors si on est fragile, ben on n'a qu'à s'en prendre qu'à soi-même. Et donc les fragiles deviennent des intouchables. Le problème, c'est que leur nombre ne cesse de croître et on assiste à des vagues de suicides jamais vues. Alors les gens finissent par penser que la fragilité s'attrape comme un virus. Et c'est vrai que ça rentre quelqu'un de triste. Alors Jérémiade se cache. Enfin, elle cache sa fragilité. Son gendre, d'ailleurs, ne sait pas que Jérémiade est une fragile. Heureusement, parce que lui est Chief Happiness Officer. Il est chargé de faire le bonheur des salariés dans l'entreprise dans laquelle il travaille. Ça existe en vrai, pas que dans le roman. Ouais. Mais peut-on obliger les autres à être heureux ? Maud Robaglia.
Le souci, c'est que même par bienveillance, lorsque quelqu'un d'autre que vous essaye de s'occuper de votre bien-être, ça finit pas toujours bien. Le bonheur ou le bien-être ne peut pas être la même recette pour tout le monde. Alors c'est vrai que Chief Happiness Officer, du coup, forcément la personne, et ça existe, c'est vrai, et c'est très répandu, le Chief Happiness Officer se base sur des éléments de langage et des recettes et une façon de déterminer le bien-être ou le mal-être. Il y a des QCM, par exemple, il y a des recettes, mais même par bienveillance, même par gentillesse, il y a toujours des gens, voilà, des individus qui ont leur nature propre et qui ne le vivent pas bien.
Les fragiles donc, aux éditions du Masque. Merci beaucoup Nicolas Caro, Gilles Zenati, je ne vais pas vous demander si vous êtes fragile.
Je fais partie de
mais vous êtes fort.
Mais bien sûr,
vous êtes fragile et fort. Ces chevaux larmes. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?
Le livre de Julia Foyce. Je suis une sur deux.
Ouais.
Voilà.
Racontez le propos.
Elle parle d'un viol et de la façon dont s'est passé le procès et la façon dont tout d'un coup les victimes, la honte se trompe de camp et la honte est posée sur les victimes et le fait de devoir en plus se battre contre une agression et grandir avec ça, vivre avec le fait qu'on doit se battre aussi pour être reconnu comme une victime.
Et Nicolas, dans ce roman, les fragiles, qu'est-ce qu'on en fait donc des fragiles ?
On les parque dans des pavillons et ce sera peut-être le cas de Jérémiade, vous verrez, parce que ce n'est pas un essai sociologique non plus, hein, c'est un roman, mais un roman qui pense et qui dit beaucoup sur notre époque.
Donc les fragiles, édition du Masque. Merci beaucoup Nicolas Caro. Dans un instant, on va parler de cinéma avec notre deuxième indispensable, c'est Marjorie Adelson qui va tout nous raconter. Mais d'abord, musique avec Youngblood.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel. Darling, I'm losing myself in you.
me, darling. I'm losing myself in you, and you, and you, and you, and you. I know I'm losing myself in you, and you, and you, and you, and you. I know. Leave me in the morning, although I don't wanna be on my own. I'm losing myself in you, and you, and you, and you.
Cotton Candy, c'était Youngblood sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable du jour avec Marjorie Adelson qui va nous faire découvrir trois films, dont un magnifique huis clos en noir et blanc.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Julie Zenati, son nouvel album Refaire danser les fleurs. On ne va pas encore refaire danser les salles de cinéma, mais on va parler cinéma. Bonjour Marjorie Adelson.
Bonjour.
On va voir avec vous quelques nouveautés VOD, mais d'abord, quelques classiques à redécouvrir, les films de Jean-Claude Carrière.
Oui, Jean-Claude Carrière, c'était le roi des adaptations au cinéma, plus de 90 en tout. Et il a travaillé avec les plus grands, Jacques Tati, Miloš Forman ou encore Louise Buñuel. Et avec Buñuel, en fait, ils créent ensemble justement un chef-d'œuvre, Belle de jour, avec Catherine Deneuve. L'histoire d'une jeune femme bourgeoise mariée qui se rend discrètement dans une maison de rendez-vous. C'est l'un des plus beaux rôles de Catherine Deneuve, il faut le voir absolument. L'autre indispensable, c'est un autre de Buñuel, le charme discret, de la bourgeoisie, qui aura même l'Oscar du meilleur film étranger en 1973. Alors cette fois-ci, c'est l'histoire d'un dîner sans cesse repoussé. On y retrouve le génie d'écriture de Jean-Claude Carrière, ses dialogues ciselés sur un milieu, la bourgeoisie, qu'il sait dépeindre comme personne. Et puis, il y a bien sûr Cyrano de Jean-Paul Rapneau avec Gérard Depardieu. C'est adapté de la pièce de théâtre et Jean-Claude Carrière nous parlait de sa méthode de travail.
La pièce fait 3h30, c'était pas possible de toute la filmer. Il fallait resserrer certaines scènes, adapter certains alexandrins, écrire carrément certaines tirades, mais à la manière de Rostand. Or, j'ai la chance d'avoir appris la prosodie française d'assez près, quand j'étais plus jeune. Donc, à la stupéfaction de Jean-Paul Rapneau, tout à coup, je me mettais à écrire une réplique qui paraissait tout à fait vraisemblable. Alors, quelquefois, il s'agissait tout simplement de changer un mot.
Jean-Claude Carrière qui vient de nous quitter. Puis Marjorie, vous allez nous parler des sorties VOD à ne pas rater. On commence avec Bliss, un film original Amazon.
Oui, c'est un film futuriste assez intrigant. C'est avec Salma Hayek et Owen Wilson. Alors, on est quelque part dans une ville toute grise. Greg est en dépression, il vient de divorcer. Et un matin, eh bien, son patron lui annonce qu'il est viré. Sous le choc, Greg, il a un geste brusque et il tue accidentellement son boss.
Ouais.
Il se réfugie alors
c'est
dans
un geste
rêve.
Brusque.
Le rêve de tout le monde. Non, mais c'est vraiment accidentel. Et là, dans le bar, eh bien, il tombe sur Isabelle, c'est Salma Hayek, une sorte de sorcière hippie qui lui propose de l'aider. Pour le calmer, elle lui donne une étrange explication.
Tu vois tous les gens qui défilent dehors, ils sont pas réels. Le barman, là, pas réel. On est seulement quelques-uns à être réels.
Je crois que vous avez besoin d'aide.
Non, c'est toi qui as besoin d'aide. Alors, tu vas chercher mon collier et je trouverai une solution à ton problème, Greg.
Comment vous connaissez mon prénom ?
Voilà, alors pour Isabelle, en fait, ce monde gris et violent est en fait une simulation à l'intérieur d'un autre monde riche et beau auquel ils appartiendraient tous les deux. C'est un genre de Matrix, en fait, ce film. Matrix version cinéma d'auteur. Plus maladroit aussi, mais c'est ce qui fait son charme. Greg et Isabelle ne vont pas prendre des pilules, vous savez, rouges ou bleues comme dans Matrix, mais des cristaux qui les emmènent dans ce fameux monde idéal et ensoleillé. C'est un film qui a un écho particulier en cette période où on ne peut pas vraiment voyager. On est entre la science-fiction et la romance avec un scénario surprenant qui nous fait douter jusqu'au bout quel est vraiment le monde réel? Eh bien, je vous en dis pas plus. Et puis surtout, voilà, ce qui est amusant, c'est que Salma Hayek, qu'on connaît dans des rôles très sexy, là, elle se moque complètement d'elle-même en jouant une SDF vraiment délurée. Donc c'est un film vraiment attachant, original, Bliss sur Prime Video.
Et le second film dont vous nous parlez, Marjorie, après Bliss, c'est Miss. Miss qui était sorti en salle il y a quelques mois, qui est disponible désormais en DVD et en VOD.
Oui, c'est un film audacieux, une comédie grand public avec un sujet qui est pourtant délicat. Alex a 9 ans et son rêve absolu, c'est devenir Miss France. Problème, Alex, ben, c'est un petit garçon. Alors on le retrouve des années plus tard, il a la vingtaine, ses parents sont morts et il se décide enfin à franchir le pas. Donc il va se lancer dans cette compétition en cachant son identité. Alors ce qui est intéressant en fait, c'est que ce n'est pas un film sur les transgenres, mais plutôt sur comment casser les codes imposés par le genre. Et pour ça, le réalisateur Ruben Albès s'est inspiré d'Alexandre Vetter qui joue Alex.
Quand j'ai rencontré Alexandre, j'étais fasciné par cette ambivalence entre le masculin et le féminin, tellement décontracté, sans aucune problématique. Et j'ai regardé et en fait, il se sentait bien comme ça. Il dit, moi je suis un garçon, je ne veux pas être une fille. Mais je vis ma féminité, je l'assume. Et donc, je trouvais ça incroyable. J'ai dit, ok, il y a un film.
Voilà, c'est un sujet qui, dit comme ça, ça peut être un peu casse-gueule. Hein, mais en fait, le film s'en sort haut la main. C'est subtil, il y a beaucoup d'humour, grâce notamment à la palette de personnages secondaires un peu loufoques qui vont aider Alex. Ça donne un film lumineux, intelligent, Miss en DVD et VOD.
Et puis le dernier film que vous avez choisi pour nous, Marjorie, c'est Malcolm et Marie. C'est une création originale Netflix, entièrement en noir et blanc, mais ce n'est pas la seule caractéristique.
Non, parce que c'est aussi un huis clos tourné en secret quand voilà. Hollywood était confiné. Alors c'est l'histoire de Malcolm, un jeune réalisateur qui revient de l'avant-première de son film. Tout le monde a adoré, il s'apprête à fêter ça avec Marie, son amoureuse. Mais là, elle lui annonce qu'il a oublié de la remercier dans son discours. La gaffe, elle est d'autant plus grosse que le film s'inspire de la vie de Marie. C'est le début d'une longue nuit entre règlement de compte très musclé et déclaration d'amour.
Tu es de loin la femme la plus insupportable, la plus difficile, la plus obstinée et odieuse que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime.
Alors, faire un huis clos en noir et blanc sur un couple qui se dispute pendant 2 heures, c'était un pari osé. Et du coup, on adore ou on déteste. Moi, personnellement, j'ai adoré. Déjà, c'est un film esthétiquement qui est très beau. Il rend hommage aux classiques d'Hollywood. Et il y a des plans qui sont tellement beaux qu'on a envie de les prendre et d'en faire des posters. En plus, c'est un film vraiment qui est intense aussi, hein, grâce au jeu des acteurs. Zendaya, qu'on connaît de la série Euphoria, exactement, et John David Washington. Alors, ils se déchirent, ils se réconcilient, puis ils repartent au quart de tour. Il y a forcément des passages qui vont vous évoquer des souvenirs. Après, le risque avec un huis clos et seulement 2 acteurs, c'est que si vous n'êtes pas touché par leur jeu, eh ben vous risquez de trouver ça très long et très bavard. Voilà, c'est un film étonnant avec une très belle mise en scène à voir pour se faire son propre avis. Malcolm et Marie sur Netflix.
Julie Zenati, vous faisiez des bons sur votre chaise.
Parce
vous l'avez
que
vu
j'ai commencé, c'est incroyable. Vraiment, au début, je me suis dit, je vais m'ennuyer. C'est quand que la colère elle arrive, quand est-ce qu'il y a des chevaux, tout ça. Et en fait, pas du tout. On est vraiment, c'est tellement bien filmé. On a vraiment l'impression de rentrer dans le visage du personnage, etc. De temps en temps, on est gêné, on est en colère. Il y a quelque chose de très très fort dans la mise en scène. Vraiment, la lumière est folle. Esthétiquement, c'est dingue. Vraiment.
Ça s'appelle Malcolm et Marie. Julie Zenati reste avec nous. Marjorie Adelson, je vous dis merci. Je vous dis à très vite.
Merci.
Et nous, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de l'émission. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Refaire danser les fleurs, tout un programme, c'est le nouvel album de Julie Zenati, chanteuse, autrice, compositrice, qui est avec nous dans ce studio. Il y avait une tournée qui était prévue pour janvier, elle est reportée, évidemment, Covid oblige. Elle est reportée à mars ou encore plus loin?
Pour l'instant, elle est reportée à mars et on attend patiemment qu'on nous dise qu'on peut réouvrir les salles de spectacle en respectant la distanciation, les masques, etc. On y croit, on lâche rien.
Et je rassure tous les gens qui ont acheté le billet sera valable évidemment.
Il sera valable jusqu'à ce qu'on puisse ouvrir.
Vous avez donné un concert, et ça s'est fait le concert en live streaming à la Scala ?
La semaine dernière, oui.
C'était comment ? C'était le 4 février, comment ça s'est passé ?
C'était incroyable parce que j'avais évidemment très très peur de ne pas réussir à créer un lien avec les gens. Il faut savoir que j'avais des écrans, les gens avaient allumé leur caméra, donc je pouvais les voir. On avait un tout petit peu différé entre le moment où je leur demandais quelque chose et le moment où les choses pouvaient se faire. Mais c'était super parce j'ai fait venir plein de musiciens, plein de potes qui sont venus jouer sur scène. Il y avait toute une équipe de techniciens qui s'est remis à bosser. On a réouvert ce théâtre. Voilà, on était très heureux de le faire.
Vous avez payé les techniciens ?
Évidemment.
Je vous pose la question parce qu'il y a plein de chanteurs, chanteuses qui nous écoutent. Vous avez mis des billets en vente.
Oui.
19,99 ou 24,99, on va dire 20 et 25 euros.
Oui.
Vous avez réussi à rentrer dans vos frais. Vous avez vendu combien
non.
de billets?
Non. Non, rentrer dans les frais, non. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un live stream, on fait venir la fibre, on fait venir un satellite, on fait venir un car avec des caméras, etc. Comme une émission de télé, en fait. Mm-hmm. Donc, non, je crois qu'on va peut-être tout juste éponger, peut-être. Mais en tout cas, nous, on a passé un super moment et j'étais très heureuse de me dire que ce projet a fait travailler 60 personnes, parce que c'est ça.
En juillet 2019, Julie Zenati, vous aviez posté sur votre compte officiel Facebook une séquence vidéo, micro-trottoir, tournée par vous-même. Vous étiez dans les rues de Paris, vous alliez à la rencontre des gens avec votre micro, avec une question cruciale quand on fait un métier public. Mais qui est Julie Zenati, Florilège?
Si je vous dis Julie Zenati, qu'est-ce que ça vous évoque?
Une chanteuse.
Ouais, c'est ça. Et chantez quoi?
Julie Zenati.
Pour moi, c'est une chanteuse.
Ouais. J'allais dire une actrice, moi, mais c'est toi qui est peut-être bon.
Oui, je pense que c'est une actrice, si je dis pas de bêtises. Non.
Si je vous dis Julie Zenati, est-ce que ça vous parle?
Oui.
Oui, ça vous parle.
C'est une chanteuse.
Une musicienne, chanteuse, actrice, footballeuse.
Oui.
Oui,
hein? Oui, oui.
D'après vous, quoi alors?
Footballeuse.
Voilà, footballeuse.
Je trouve ça très drôle et très frais. Je ne sais pas ce que vous voulez en foot, mais en auto-ironie, beaucoup. Pourquoi cette
petite
séquence?
Parce que ça me fait marrer. Parce que ça me fait marrer.
Et pourquoi la mise après sur les réseaux sociaux?
Pour dire aux gens que... Oui, pour montrer qu'à un moment, le statut qu'on peut avoir, la place qu'on a, etc., tout ça est mouvant. Et que moi, je fais tout ça parce que j'aime chanter, mon kiff, c'est ça. Après, il y aura des moments où ça va, puis des moments où ça va pas, et c'est comme ça. C'est juste un peu pour détendre aussi ce positionnement entre un artiste et son public. Et ça allait dans toute ma démarche d'artisan, en fait, de redescendre un petit peu du piédestal.
Ouais, et dans votre démarche, c'est pour ça également que vous avez accepté de participer à l'émission Masked Singer sur
Panda.
TF1. Vous étiez caché dans le Panda,
ouais.
Vous avez fini troisième.
Ouais.
Pourquoi vous avez dit oui? Vous vouliez être jugé que sur votre voix?
Oui, complètement. Parce que ça fait 22 ans que je fais ce métier, ça fait 22 ans qu'on juge avant tout qui je suis avant de juger mon travail.
Ouais.
Parce que c'est un peu comme ça. Alors, vous êtes aimable ou vous ne l'êtes pas, mais par contre, c'est pas vous chantez bien ou vous chantez pas bien, votre travail il est cool ou il est pas cool. C'est d'abord votre nom avant votre travail. Et c'est vrai que du coup, là, de pouvoir me cacher dans ce Panda et qu'on juge uniquement mon instrument, qui est ma voix et mon émotion, bah, ça a créé des trucs incroyables parce que tout d'un coup, quand on enlève les a priori, les préjugés, le fait que j'ai commencé dans une comédie musicale, donc je suis une chanteuse populaire qui n'est pas capable de citer Deleuze, ou enfin voilà, ce genre de choses-là. Quand on enlève tout ça, eh ben, il reste juste ma voix et elle a retouché les gens, alors ça m'a fait plaisir.
Avant que je vous salue, votre voix, on l'entend là.
Comment elle fait la France en France et Jojo, comment elle danse le rock et le slow, comment elle fera la France pour nos petits cœurs qui flanchent.
Julie Zenati, merci d'avoir été avec nous. Cette chanson extraite de ce nouvel album qui s'appelle Refaire danser les fleurs. Culture Média, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain à 9h. Évidemment, on va parler de la nouvelle saison de la compétition Top Chef. Nous serons avec le chef Paul Perret et le présentateur de l'émission Stéphane Rothenberg. Et puis, l'écrivain Laurent Combalbert pour un roman haletant. Ça s'appelle Négo. Il a d'abord eu un premier métier. Il était négociateur. Il racontait quand il y avait un forcené qui ne voulait pas sortir. Et Négo raconte ceci. Oh, ouais, c'est passionnant. Demain, il y a l'émission. Mais tout de suite, c'est Anne Romanoff. Ça fait du bien. Là, je vous dis à demain. Merci encore, Julie Zenati.
Merci.
Europe 1, Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.